Eh bien, nous retrouverons M. François Bergeron, rédacteur en chef du journal francophone de Toronto, L'Express de Toronto. Bonjour, M. Bergeron.
Bonjour, Choc FM.
Alors, on est à un mois exactement, puisque le 19 octobre prochain, les élections fédérales, les Canadiens vont choisir leur candidat pour les élections fédérales dans chaque circonscription. Et bien entendu, la campagne fait rage. Alors, on va faire un petit peu le point, M. Bergeron, aujourd'hui. Et des grands thèmes ressortent un petit peu. Puis là, je regarde l'article que vous avez publié dans l'Express cette semaine. Un des thèmes qui ressort, c'est d'abord l'économie. Vos commentaires?
Bien, d'abord, c'est qu'il y a un seul enjeu maintenant dans cette élection-là, c'est est-ce qu'on conserve Stephen Harper ou on congédie Stephen Harper? C'est ça l'enjeu. Mais cet enjeu-là, évidemment, se décline en plusieurs dimensions ou axes, et dont l'économie, la sécurité puis la démocratie. Ça, c'est les trois grands axes, à mon avis.
D'accord.
Alors, pour l'économie, on en parle beaucoup et c'est probablement la plus grande motivation des électeurs. Donc, c'est les programmes économiques des partis qui sont plus importants dans l'idée des électeurs que d'autres enjeux là, sur la sécurité ou la démocratie.
Mm-hmm.
Mais ça se discute beaucoup. Ça se discute, là, ce que je viens de dire là. Mais pour ce qui est de l'économie, on commence à voir quand même des bonnes différences entre les trois partis. Mulcair qui promet des nouveaux programmes sociaux, Trudeau qui mise sur des nouvelles infrastructures, puis Harper, lui, qui a l'air de dire que l'appareil fédéral est assez gros comme ça. Donc, il y a des différences, là, mais on débat sur est-ce qu'on devrait faire des déficits ou non, est-ce qu'on devrait investir dans tel domaine ou non. Mulcair parle de diversifier l'économie.
Mm-hmm.
Trudeau, lui, les déficits, ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Alors, il y a des différences. Évidemment, il y a plus de différences entre les conservateurs et les deux autres qu'entre les deux autres.
Oui. Est-ce que vous avez l'impression que chaque parti reste dans son parterre? C'est à peu près ce qu'on pouvait s'attendre de chaque parti? Ou est-ce qu'ils se sont un petit peu écartés, certains se sont écartés de leur ligne directrice?
Non, chaque parti cultive quand même sa base. Les commentateurs aiment bien dire que les conservateurs sont très forts là-dedans, d'identifier une base et de la cultiver vraiment avec soin, au point même d'ignorer les gens qui font pas partie de leur démographie. Mais les deux autres partis ont quand même des bases électorales assez bien définies et restent sur ces positions-là. Mais évidemment, chacun, parce que là, dans les sondages, les trois partis sont à égalité. Donc, chacun essaye quand même d'attirer des gens qui, soit normalement, ne voteraient pas pour eux, soit ont déjà voté pour eux, mais sont allés vers d'autres partis. Alors, chacun essaye d'élargir quand même un peu sa talle d'électeurs.
D'accord. On parle de la sécurité maintenant, le deuxième thème abordé dans votre article.
Alors, la sécurité, c'est évidemment la guerre contre l'État islamique, c'est les mesures de sécurité, le projet de loi C-51 là, sur la loi antiterroriste. C'est aussi toutes les mesures des conservateurs, parce que les conservateurs, c'est vraiment le parti de la loi et l'ordre là, dans cette élection-là, et en général, de toute façon. Alors, c'est aussi les peines plus sévères pour des différents crimes. C'est une répression continue aussi de crimes, ce qu'on appelle des crimes sans victime, la prostitution, la marijuana,
mm-hmm.
que d'autres partis, on présume, libéraliseraient, mais ça, c'est pas clair non plus. Discussion sur la sécurité, c'est inséré l'immigration des réfugiés. Parce que, évidemment, l'histoire des réfugiés syriens en Europe a dominé pendant une semaine la campagne électorale ici, à cause de la photo qu'on connaît, là, qui a circulé partout dans le monde. Alors, les conservateurs, même si on va faciliter l'entrée maintenant de certains réfugiés, continuent de dire qu'il faut rester prudent dans ce domaine-là. Et les autres partis les accusent d'être un peu sans cœur, mais il y a quand même beaucoup de Canadiens qui prônent la prudence aussi dans ce dossier-là. Il y a beaucoup de Canadiens aussi, je dirais même une majorité, qui sont pour la guerre contre l'État islamique, pour la participation canadienne dans cette intervention-là. Et là, les Mulcair et Trudeau sont un peu à contre-courant.
Mm.
Ils sont à contre-courant aussi, à mon avis, dans l'histoire du NICAP, dans les cérémonies de citoyenneté, que c'est une question extrêmement mineure.
Mm. Mais vous avez l'impression que là, les conservateurs ne devraient pas trop laisser les plumes?
Non, les conservateurs, c'est un bon dossier pour eux, ça, okay. La sécurité.
On passe à la démocratie?
Alors, la démocratie, ça, c'est l'inverse. C'est le pire dossier des conservateurs.
OK.
Ça a commencé, d'ailleurs, la campagne avec l'histoire de le procès de Mike Duffy pour corruption, qui a illustré là, des pratiques douteuses chez plusieurs sénateurs conservateurs, pas juste conservateurs, mais surtout conservateurs. Et de toute façon, il y a un paquet d'autres entorses à la démocratie qui sont dues souvent à l'usure du pouvoir. Hein. Ça, c'est un parti qui est au pouvoir depuis 10 ans. Donc, il y a toutes sortes de raccourcis qu'on commence à prendre qui sont discutables. Alors, le fait que Harper... on parle beaucoup d'un déficit démocratique chez les conservateurs, et ça comprend la réticence, par exemple, de Harper à discuter avec les premiers ministres provinciaux. Ça fait qu'on peut jamais parler d'abolir le Sénat ou de régler des problèmes des Premières Nations ou du Québec. Mmh. Le bilinguisme officiel, on fait toujours remarquer que on appuie du bout des lèvres le bilinguisme officiel, mais on fait pas grand-chose. Par exemple, les conservateurs ont toujours pas adopté le bilinguisme officiel obligatoire pour les juges de la Cour suprême, alors que les deux autres partis sont d'accord avec ça. Donc, on fait le minimum pour le bilinguisme officiel. Il y a le peu d'intérêt aussi envers la modernisation du mode de scrutin, parce que là, on est encore dans un mode de scrutin qui peut produire un gouvernement majoritaire, même si le parti n'a pas la majorité de vote. Donc, il y a beaucoup de gens qui réclament un système où il y aurait, disons, plusieurs choix sur le bulletin de vote et qu'on ferait une espèce de système à 2-3 tours en une seule fois, évidemment, là, mais on appelle ça, un système hiérarchique proportionnel. C'est pas de la proportionnelle, mais presque.
Mm-hmm.
Alors ça, il y a beaucoup de plusieurs partis qui veulent maintenant examiner ça. Les conservateurs en ont jamais parlé. Alors, ça fait partie du déficit démocratique là, de Harper, mais ça s'est associé surtout à l'usure du pouvoir.
Ouais, parce que tous les gouvernements sortants, bien sûr, ont un endroit où ils sont vulnérables. Est-ce que vous avez le sentiment que celui-là va être quelque chose qui va vraiment endommager les chances des conservateurs?
Oui, effectivement, je pense que depuis le début que je dis que l'économie n'est pas tout dans cette campagne-là, que c'est vrai que les gens votent, c'est sûr que si un parti propose de détruire l'économie, ça va avoir un impact, mais c'est pas le cas.
Hein? Okay.
On s'entend. Alors, l'économie, c'est un dossier neutre, je dirais, pour les trois partis. La sécurité est un meilleur dossier pour Harper que pour les autres.
Mm-hmm.
Les autres ont des contradictions là-dedans. Mais la démocratie, ça, c'est le pire dossier des conservateurs et c'est peut-être là que c'est là que s'accumulent les irritants.
Ouais.
Alors, c'est peut-être ça qui va défaire les conservateurs.
Peut-être leur talon d'Achille. Ouais.
Voilà.
Ouais. Eh bien, M. Bergeron, merci pour cette chronique et puis on se retrouve, bien entendu, lors de la prochaine.
Ben, merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.